Bien, les jeunes libéraux vont se réunir en congrès à Montréal au cours de la fin de semaine. Bon, là, notre invité n'est pas là, alors je danse la claquette pendant 10 minutes. Non, OK. Donc, les jeunes libéraux vont se réunir à Montréal en fin de semaine et à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, bien sûr. Tout le monde s'imagine que ça va être quelque part autour du 29 août prochain pour une élection qui, elle, est prévue le 1er octobre. Eh bien, le thème de ce congrès des jeunes libéraux sera la démocratie à l'ère du numérique. Ils veulent, entre autres, des examens moins stressants. Ça, c'est typique des milléniaux, ça, il me semble, en tout cas. Et faire du Québec un leader mondial dans le secteur de la crypto-monnaie, entre autres choses. Alors, il y aura une dizaine de thèmes qui vont être explorés par les jeunes libéraux là, qui vont être réunis donc à Montréal. Et donc, il y a eu une espèce de consultation qui a été faite sur le site Internet des jeunes libéraux au cours des derniers jours, des dernières semaines, pour justement en arriver avec les priorités qui vont être discutées. Stéphane Strill est président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Strill.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même?
Très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Bienvenue. Donc, il y a plusieurs priorités. D'abord, parlez-moi du thème là, que vous avez choisi, la démocratie à l'ère du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais en fait, plus précisément, la démocratie à l'ère du numérique, c'est quelque chose qu'on a présenté au mois de novembre. Donc, notre congrès ne va pas nécessairement porter sur ce thème-là. On va peut-être en discuter de façon périphérique. Mais notre congrès, vraiment, c'est sur les 10 axes que nos militants ont choisis. En fait, on a lancé une consultation numérique à la fin du printemps. Ouais. Avec une vingtaine d'enjeux, on a demandé à nos militants c'était lesquels les 10 qui étaient prioritaires selon eux pour le Québec. Ils les ont choisis. Et ensuite, on a lancé une consultation sur le terrain. On a fait 5700 km de route pour rencontrer nos militants un peu partout à travers la province. Et une consultation numérique aussi, pour que les gens puissent s'exprimer sur Internet.
Bon, et l'une de ces priorités-là qui a été retenue, entre autres, c'est en éducation, un enseignement supérieur. Vous demandez au gouvernement, en fait, qu'il s'engage à faire face aux problématiques de santé mentale dans les milieux postsecondaires. Et là, vous demandez de mettre de l'avant des méthodes d'évaluation plus flexibles, telles que des examens maison à livre ouvert ou les travaux avec une date de remise flexible. Et vous trouvez ça stressant, les examens, c'est ça?
C'est-à-dire, c'est une de nos propositions pour régler la problématique. On propose aussi une stratégie nationale de prévention et de lutte aux problèmes de santé mentale dans les cégeps et les universités, parce que les chiffres sont assez inquiétants quand on regarde le taux d'étudiants qui, pendant leur parcours universitaire, auront eu des problèmes soit de dépression, d'anxiété de performance, de même pensée suicidaire, ça peut aller jusqu'à là. Quand on voit ces chiffres, c'est assez inquiétant. Et on pense que le gouvernement doit se pencher sur la question. La question des examens fait partie de la réflexion. Et bien sûr, dans toutes nos consultations, ce qui revenait à chaque fois, c'est qu'il faut faire attention de ne jamais, jamais, jamais niveler vers le bas. Il ne faut pas que la qualité de l'enseignement soit...
Mais ça marcherait comment, des examens à la maison?
Je ne suis pas pédagogue pour vous donner les réponses exactes. Nous, ce qu'on veut, c'est lancer la réflexion, parce qu'on sait que les examens actuels, comme on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire dans une salle de classe fermée, sans accès au monde extérieur, sans pouvoir consulter, sans pouvoir... dans une salle hermétique, c'est une situation qui n'existe pas dans la vie de tous les jours. Dans le monde du travail, on n'est jamais isolé comme ça sans pouvoir avoir accès à aucune ressource.
Mais non, mais c'est parce que quand vous allez à l'école, c'est parce qu'on vous enseigne des choses, puis on veut savoir ce que vous avez retenu de l'enseignement. C'est ça un examen, non?
C'est ça, le but de l'examen, c'est ça. Oui. Le problème, c'est qu'actuellement...
Alors, si on vous donne accès à vos livres à maison ou téléphone ou je ne sais pas quoi, il me semble qu'on on vérifie davantage votre capacité à trouver réponse ailleurs que dans votre tête.
On évalue la capacité des gens à faire de la recherche parce qu'actuellement, quand on a un examen et qu'on fait juste mémoriser tout par cœur la veille de l'examen, qu'on recrache tout dans le cahier, qu'on peut avoir une bonne note et le lendemain, on a tout oublié, c'est pas beaucoup plus utile non plus. Le nombre de jeunes que... Enfin, moi, je suis moi-même étudiant. Le nombre de jeunes que je rencontre qui me disent les méthodes actuelles d'évaluation actuelles ne sont pas meilleures non plus parce que même si on demande aux gens de retenir les choses, le lendemain, ils les ont tout oublié parce qu'on apprend dans une logique de juste recracher. Donc, si on trouve d'autres façons de faire en sorte que les examens puissent être différents pour s'assurer qu'après, il y a encore quelque chose qu'on ait retenu, c'est ça l'objectif. Dans une perspective plus large de viser à régler certaines problématiques de santé mentale qui, en partie, sont liées aux examens, mais il y a toutes d'autres sources de stress et de problèmes.
OK, il y a d'autres priorités. Vous voudriez faire du Québec un leader mondial du secteur des chaînes de blocs et de la crypto-monnaie, mais Hydro-Québec ne veut pas. Il trouve que ça consomme trop d'électricité puis que ça serait une erreur de faire ça.
C'est-à-dire que Hydro-Québec a été dépassé un peu par le nombre de demandes qu'ils ont reçues, le nombre de demandes d'entreprises de crypto-monnaie qui voulaient s'installer au Québec. C'est des entreprises extrêmement énergivores par la quantité d'ordinateurs qui font des calculs constamment. Donc, ils ont mis un prix dissuasif là, pour réduire un peu la demande. Nous, ce qu'on propose, en gros, ça serait de affranchir les entreprises de ce prix dissuasif si elles respectent certains critères comme de garantir un certain nombre d'emplois, de s'installer dans certaines régions où il y aurait besoin. Il peut y avoir des externalités positives à avoir des mines de crypto-monnaie.
Ouais.
Ça ne crée pas nécessairement beaucoup d'emplois, une mine, mais les externalités peuvent être positives. La ville de Baie-Comeau en réclame, eux disent en avoir besoin. Ça serait bon pour leur développement économique. Donc si les entreprises de crypto-monnaie sont capables de s'engager sur certaines exigences, on pourrait les affranchir de ce tarif dissuasif.
OK. Bon, là, il y en a une qui est quand même assez intéressante également. Vous voulez que le Québec, dans un avenir rapproché, là, d'ici 2050, adopte un objectif de zéro émission de carbone, en fait, qu'on n'en émette plus, en tout cas, pas avec les voitures, parce que vous voudriez éliminer complètement les voitures à essence. Est-ce que c'est réaliste de penser ça? Il y a actuellement à peu près 13 000 voitures électriques au Québec.
Oui, actuellement, c'est moins de 1% de tout le parc automobile québécois qui est électrique. De ce que je comprends, dans les projections, d'ici 2 ans, on peut le monter à 50 000, même 100 000. L'objectif du Québec dans la politique énergétique 2030, c'était d'arriver, en 2030, à avoir 1 million de véhicules électriques. Donc, niveau technologique, c'est possible d'arriver en 2050 à avoir des véhicules qui soient électriques, qui soient abordables et qui puissent résister à nos conditions climatiques qui sont parfois extrêmes. Donc, c'est réaliste de ce niveau-là. Et pour le Québec aussi, il faudra adapter les structures. Il faudra que les infrastructures puissent soutenir des ports pour recharger les autos, répondre aux questions de comment on va faire pour charger toutes les voitures en même temps, parce que les gens vont arriver du travail, vont vouloir les charger en même temps. Donc, c'est toutes des problématiques qu'il faut répondre. Mais c'est totalement réaliste quand on sait que c'est une énergie propre qui est produite ici, qu'on consomme ici. Il n'y a aucune raison de se dire on ne va pas aller dans cette direction-là.
OK. Mais vous pensez là, que ce serait qu'on pourrait quoi créer une industrie également qui serait liée à ça, étant donné qu'on a de l'électricité facile à acquérir, en fait, à distribuer. Là. Nous, on a de l'énergie renouvelable à profusion avec les barrages hydroélectriques, tout ça.
Ben, ça pourrait être une option, mais tout simplement de inciter peu à peu les gens à faire le saut vers l'auto électrique.
Ouais.
Pour le moment, c'est que c'est très cher une auto électrique. On peut comprendre que les gens se disent ben, « j'ai pas envie d'aller là-dedans ». Éventuellement, les prix vont baisser, ça va être beaucoup plus abordable. On va pouvoir démocratiser l'usage d'une voiture électrique comme on l'a fait pour les ordinateurs, comme on l'a fait pour toutes sortes d'autres choses. Et ça va devenir un incitatif quasiment. Le plein d'essence s'est rendu à 75 $, ça peut facilement. Là. Donc, c'est une option qui va être viable aussi économiquement pour les Québécois.
Quelle est votre position sur l'immigration? Est-ce que vous pensez qu'il faut ouvrir davantage les portes du Québec à l'immigration?
Ben, le chiffre actuel, je pense que c'est celui qui respecte le mieux nos besoins en termes économiques, en termes d'emploi. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de poursuivre la régionalisation de l'immigration. La majorité des immigrants s'installent à Montréal ou à Québec, certains, alors que les besoins de main-d'œuvre les plus criants se trouvent en région. Donc, nous, on veut les inciter à s'installer en région en donnant aux entreprises l'objectif de ne pas aller chercher uniquement un individu ou une individu, d'aller chercher la famille au complet en allant chercher un accompagnement personnalisé familial. On peut probablement avoir de meilleurs résultats qu'en disant viens, on a une job qui t'attend à Baie-Comeau. S'il n'y a rien pour ton épouse, s'il n'y a rien pour ton mari, s'il n'y a rien pour tes enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc, en incitant les entreprises à avoir une approche familiale d'accueil, c'est beaucoup plus facile pour l'installation de familles et donc de plus de gens parce que les emplois sont là.
Et je voudrais vous amener aussi sur la question des minorités ethniques et autochtones.
Oui.
Là, c'est un des points sur lequel vous voulez travailler également, vous voulez réfléchir au cours de la fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de Slav et de Kanata, ces deux spectacles de Robert Lepage qui ont été annulés? Est-ce que on a bien fait d'annuler ça ou si on aurait dû les conserver à l'affiche?
Ben, la décision de l'annuler, c'était une décision d'affaires des différents groupes impliqués là-dedans. Et puis, c'est dommage. J'aurais beaucoup aimé pouvoir voir ces pièces. C'est probablement que c'est des pièces extraordinaires, sachant à quel point Robert Lepage est un génie du monde culturel au Québec. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a eu, je pense, un manque de dialogue dans tout le processus qui a mené à la création de ces pièces-là. Et c'est un peu ce qui est reproché. Et même Robert Lepage l'a admis finalement un peu plus tard cet été. Il faut que dans certaines pièces, quand on touche certains thèmes, qu'il y ait une sensibilité qui soit développée. C'est normal qu'on ne soit pas encore habitué, c'est normal que ça choque. Mais je pense que tendre l'oreille, tendre la main, surtout quand on va traiter de sujets sensibles qui touchent l'autre, c'est pas anodin, c'est pas rien. Donc nous, on encourage un meilleur dialogue entre les communautés lorsqu'on traite de sujets sensibles comme ceux qui ont été traités par ces deux pièces-là.
Donc, on a manqué de sensibilité en ne mettant pas suffisamment, par exemple, de personnes de race noire dans Slave ou encore d'Autochtones dans Kanata, c'est ça? C'est ce que vous dites?
Ben, c'est dommage, c'est une occasion qui a été manquée de donner la place, une place plus grande à ces communautés qui, malheureusement, ont encore de la difficulté à accéder au monde culturel québécois qui est très blanc encore.
Ouais.
À Montréal, on sait que 30% de la population environ vient d'ailleurs. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit quand on regarde la télé, quand on regarde des shows d'humour, quand on regarde des pièces de théâtre. Donc nous, on veut que ça soit plus représentatif de la diversité qu'on connaît au Québec aujourd'hui.
Bon. Alors là, vous réunissez au cours de la fin de semaine. Il y aura combien de personnes présentes à votre congrès?
Alors, on ne révèle jamais nos chiffres à l'avance. De toute façon, il y a encore beaucoup de gens qui restent à s'inscrire. Ça risque d'être un bon chiffre, beaucoup plus que les années précédentes, donc ça s'annonce bien.
Bon. Ben, merci beaucoup, M. Strill, d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous.
Au revoir. Stéphane Strill est le président de la commission Jeunesse du Parti libéral.